Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Nouvelle série des clés pour vivre cette semaine que je vous invite à suivre. Je reçois au micro un intervenant que vous avez déjà entendu à plusieurs reprises, auteur, poète, philosophe. Bonjour Éric Drus.
Bonjour.
Alors auteur, oui, et auteur d'un ouvrage qui vient de paraître tout juste aux éditions Saint-Léger. Il s'intitule « Prêtez-voix, un chemin de création à l'école d'Edith Stein ». Edith Stein, c'est toute une histoire.
Oui.
Une aventure qui dure depuis près de 20 ans aujourd'hui.
Oui.
La naissance de ce dernier bébé, on peut dire.
Oui.
Encore un.
Oui. Alors, ce livre est le fruit et, d'un cheminement intérieur qui a été l'origine de ce chemin intérieur. C'est bien sûr la fréquentation de l'œuvre d'Edith Stein, l'écoute de l'œuvre d'Edith Stein. Mais au-delà du contact inspirant avec cette œuvre, c'est surtout, très concrètement, cette ascèse intérieure qui est la condition de tout geste de création. Alors pour le philosophe, écrire c'est une création, le poète aussi, mais toute vie peut être une création, si j'entends par création le fait de donner corps, de traduire dans une existence ce qui nous habite. Et donc c'est aussi un témoignage, c'est une réflexion qui est aussi un témoignage sur le mystère d'un chemin qui permet à une existence d'enfanter quelque chose qu'elle porte en elle et de l'offrir. C'est vraiment la raison d'être de ce livre, mais c'est d'abord une expérience.
Et la lecture de l'œuvre d'Edith Stein est une véritable expérience pour vous, spirituelle ?
Exactement. Ce n'est pas du tout seulement un acte intellectuel. Même si, on en avait parlé dans une précédente série, même si je lui ai consacré une thèse et que du point de vue académique, forcément, il y a des exigences. Bon, c'est un travail intellectuel, mais ça n'est pas du tout qu'un travail intellectuel. C'est une activité qui a engagé la totalité de mon être, mon intériorité, mes facultés, toute mon existence, même très concrètement. Et donc c'est devenu ce que j'appellerais un parcours initiatique, un chemin de transformation intérieure et donc un chemin spirituel aussi, parce qu'un chemin qui est ouvert sur ce qui nous dépasse.
Au fond, quelle est la fécondité de la lecture, de l'étude, de l'œuvre d'Edith Stein dans votre vie d'auteur, de philosophe et d'homme tout court, Éric Drus?
Je dirais que la fécondité, c'est peut-être un rapport plus intensifié à l'existence et plus profond, plus approfondi à l'existence. Parce que c'est une œuvre, peut-être cela est vrai de beaucoup d'autres œuvres, mais c'est une œuvre qui exige beaucoup de vous, qui exige beaucoup de vous, donc c'est une œuvre exigeante, qui exige de descendre profondément en soi pour libérer en soi un espace, pour accueillir une parole. Et donc c'est une œuvre qui exige de creuser.
C'est une œuvre qui vous conduit et vous a conduit à cette recherche de la vérité. Et qu'est-ce que la vérité ?
Alors, oui. D'abord parce que dans la vie d'Edith Stein, dans son parcours, c'est central, c'est ce qui a porté de l'intérieur cette recherche de la vérité, tout son itinéraire et son existence. Et la vérité, justement, Edith Stein était juive, et comme le rappelle un auteur, Jean Danielou, en hébreu, vérité renvoie à l'image du roc, ce sur quoi on peut s'appuyer, ce sur quoi on peut construire une existence. Et donc Edith Stein a trouvé bien sûr cette vérité. Vous me demandiez qu'est-ce que la vérité ? Eh bien la vérité c'est une réalité objective qui ne dépend pas de nous, qui existe en elle-même et qui nous permet de vivre, qui nous permet un rapport plus authentique à l'existence. Donc oui, en effet, Edith Stein, ayant été elle-même portée par ce projet, moi-même, c'est une soif profonde qui me travaille depuis toujours. Et pour moi, concrètement, mais ça a été de vérifier ce travail, de vérifier. C'est une aventure intérieure.
C'est un déplacement intérieur, au fond, dont vous parlez.
Oui. Oui, c'est tout sauf
Ça change
statique, hein.
une vie.
Ça change complètement un rapport à la vie. Ça nous permet de découvrir des potentialités, des espaces intérieurs qu'on n'aurait jamais pu soupçonner si on n'avait pas été provoqué à descendre, à chercher, à creuser.
Donc il y a un dérangement de ce qu'on peut
Un
entendre.
déplacement permanent, mais c'est quitter le connu pour s'aventurer en terre inconnue, dans des territoires qui ne sont pas seulement des territoires extérieur d'un texte, mais des territoires intérieurs, parce que ce texte, il faut en l'accueillir, l'écouter. Il y a une parole dont ce texte est porteur, et cette parole, il faut la laisser résonner en soi. Donc il faut creuser, il faut que se creuse en soi un espace qui est habité, mais qui est d'abord un espace d'écoute, un espace de
Alors, vous
silence.
parlez d'espace de silence et d'écoute. Pour lire et écouter le texte, c'est ce déplacement, c'est descendre et se laisser surprendre par l'inattendu du texte et au-delà du texte. C'est ce que l'on peut entendre.
C'est exactement cela parce que
C'est
un
une prise de
texte.
risque.
Ah oui, c'est une prise. La lecture, l'acte de la lecture est une aventure et une prise de risque. Parce que vous ne savez pas à l'avance comment le texte va travailler si vous l'accueillez, votre géographie intérieure et votre territoire intérieur. Il en fait bouger les lignes. Et entre ce que vous lisez au départ et la parole du texte, j'appelle la parole du texte, cette vie profonde du texte qui est presque comme la musique entre les notes. Là, c'est une parole entre les mots. Eh bien, il faut durer avec le texte, il faut écouter avec le texte, il faut consentir à ne rien entendre, à ne pas comprendre tout de suite. Et donc, il y a tous ces déplacements. C'est une aventure, mais il finit toujours par arriver ce qui arrive, ce qu'on peut expérimenter, c'est qu'on entend dans un fin silence, quelque chose qui est reçu, qui est la parole du texte, et qui quand même vous ouvre des horizons, jette une lumière, non seulement sur la compréhension du texte, mais au-delà sur l'existence, sur la profondeur des choses. Parce qu'il faut apprendre à lire les choses aussi. Les présences qui nous entourent, les événements de nos vies, sont quelque chose qui nous est proposé à une lecture de l'âme. Il faut apprendre à lire les choses de l'intérieur, comme disait Edith Stein. Tout, la vie elle-même, vous savez très bien, avec de la distance, parfois quand on relit notre vie, eh bien, on accède à une compréhension que nous n'avions pas au départ. C'est la même chose. Donc, apprendre à lire un texte, c'est apprendre à être un lecteur, à écouter les événements, les êtres, les choses, et à attendre que s'en libère une parole intérieure. Il ne faut pas violenter non plus les événements et les choses. Il faut attendre qu'une parole, parce qu'on n'est pas prêt à recevoir immédiatement la vérité des choses. Il faut une longue préparation intérieure et donc la patience est aussi une vertu. Il faut attendre que la vérité des choses émerge et puisse se déposer en vous et puisse parler en vous. Et après, il faut lui prêter voix.
Et après, peut-être dans un travail, une certaine ascèse aussi, pour
Oui.
entrer dans cette écoute de la lecture du texte en vue de l'interprétation.
Il faut une rude ascèse. Ascèse, au sens étymologique, c'est un exercice, mais c'est aussi une création. L'ascèse, n'est pas un mouvement de destruction, mais un mouvement de création. Il faut faire sortir quelque
C'est
chose.
au fond un mouvement de vie.
C'est un mouvement de vie, c'est un enfantement, exactement. C'est un enfantement. Mais pourquoi est-ce une ascèse? Parce que c'est vrai encore plus aujourd'hui, je crois. Les vertus nécessaires à ce travail sont des vertus qu'on appellerait passives, d'écoute, d'immobilité, de patience, de silence, alors qu'aujourd'hui, on exalte le faire, je ne dirais pas l'action, mais l'agitation. Donc, plus on fait de bruit, plus on fait parler de soi, plus on a une voix tonitruante, plus on semble exister. Mais là, c'est tout l'inverse, parce que là, il faut se taire, il faut prendre du recul, il faut écouter quelque chose de plus intéressant que les gesticulations de son petit moi. Parce que finalement, le petit moi, il répète toujours la même chose, hein, je vais bien ou je ne vais pas bien, je prends mon pouls, mais ça n'a aucun intérêt. Et souvent, dans la cacophonie ambiante, c'est une cacophonie de petits moi qui. Bon, ça n'a aucun intérêt. Pourquoi je dis ça n'a aucun intérêt? Parce que ce qui a de la valeur, c'est ce qui résiste aux modes, à ce qui va et ce qui vient. Qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui tient? Qu'est-ce qui résiste? Sur quoi est-ce que je vais pouvoir vraiment m'appuyer pour vivre? Mais pour vivre comme un vivant et pas comme un mort vivant, Emily Dickinson disait, tant de gens en, si peu de gens en vie sont vivants. Il ne suffit pas d'être en vie pour être vivant. Être vivant s'apprend. On ne sait pas d'abord être vivant. Et aujourd'hui, de moins en moins, on apprend de moins en moins à avoir un rapport éveillé et vivant à l'existence. On est porté par des automatismes, enfermé dans beaucoup de peurs, à juste titre ou à moindre juste titre. Et donc on se laisse porter. Là non, il faut se laisser déplacer. C'est un enfantement. C'est comme la chrysalide et le papillon.
Vous venez de dire, c'est ainsi que nous terminons ce premier entretien et dans cette série des clés pour vivre avec vous. Éric De Rus, on ne sait pas être vivant comme on ne sait plus être dans cette écoute silencieuse.
Non, parce
cette écoute silencieuse de l'autre, cette écoute silencieuse face à la lecture d'un texte, pour inviter ce silence à descendre au plus profond. Donc on est loin de cette dynamique, cette vraie dynamique de vie.
Oui, parce que écouter, c'est libérer en soi un espace pour plus grand que soi. Donc ça vous libère de vous-même, l'écoute vous libère de vous-même. J'ai toujours pensé qu'on ne se détachait pas à la force du poignet, mais par fascination pour quelque chose de plus grand que soi. Et quand vous écoutez, vous acceptez, vous faites le pari que quelque chose mérite que vous vous perdiez de vue. Mais pour ça, il faut un espace. Et le silence en est la condition.
Alors, on va peut-être faire quelques petits pas, jour après jour. C'est ce que je vous propose.
Merci.
Et j'invite les auditeurs aussi à peut-être se risquer dans ce déplacement qui est un déplacement, au fond, intérieur pour habiter pleinement ce silence.
Et tellement vivifiant.
Oui. Tout à fait. Voilà. Donc, je vous propose de vous retrouver demain à cette même place, à la même heure. Je rappelle qu'un livre vient tout juste de paraître aux éditions Saint-Léger. Il s'intitule « Prêtez voix, un chemin de création », toujours à l'école d'Edith Stein. À
Merci.
Demain, à la même heure.
À demain.